Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on réfléchit, on analyse l'actualité ambiante. Et semaine dernière, c'est notre grand retour, mais cette semaine, c'est le grand retour du père fondateur de l'information, Maman de Chapdelaine.
Monsieur Jules Simon. Non, ce n'est pas moi.
J'aime ça te donner des beaux qualificatifs. Ça va bien, Jules?
Ça va très bien, toi?
Oui, ça va bien. Beaucoup d'actualité parce que lendemain d'élection, on se doit d'analyser tout ça. Puis je pense qu'on se fait un malin plaisir aussi à analyser tout ça. Parce que plus j'en parle avec des gens, plus on voit pas les mêmes choses. Puis je trouve ça intéressant. Ça démontre aussi qu'il n'y a pas de vérité dans ces analyses-là, hein, qu'il y a des tendances, puis qu'on est certain de rien. Mais ça nous permet de regarder ça. Donc.
Et ça nous permet effectivement de discuter et de s'engager, puis d'amener, qu'on le veuille ou non aussi, des idées ou des perceptions qu'on a. Et qui nous permettent de dire, moi, je vois ça de même, comme
oui,
tu disais
ça.
Tout à l'heure. Alors, ça permet de faire en sorte que ça enrichit, je pense,
ça ouvre
la vue
sociale,
la vue politique.
Bon, on le sait, élection lundi dernier, résultat, il y a des gens qui vont dire à la blague le plus cher remaniement ministériel de l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui ont dit tout ça pour rien, ça sert à rien. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. J'ai l'impression que ça va être... Si... Là, c'est parce qu'on arrive à des résultats semblables qu'on dit ça. Si on était arrivé à des résultats différents, on aurait dit bon, mais ça, c'est pour ça qu'on a fait l'élection. Ça démontre ce que les Canadiens ont le goût d'avoir. Puis, au contraire, même s'il y a peu de différence pas des pourcentages de vote, mais dans les sièges, on voit qu'il y a eu des déplacements, qu'il y a eu des changements très clairs, entre autres à cause du recentrage du Parti conservateur, qui est allé chercher plus de voix en Atlantique, mais qui en a perdu dans l'Ouest. Donc, puis c'est pas simple. Et aussi, le célèbre débat en anglais qu'on disait, ça va donner un élan au Bloc. Mais je pense que le mauvais calcul que certains ont fait, c'est de dire que ça va l'enlever aux libéraux. Mais non, ça l'enlever aux conservateurs. Puis moi, je pense que s'il n'y avait pas eu cet élément-là, les bloqués, ça aurait probablement peut-être 5 à 10 sièges de moins, puis c'est les conservateurs qui auraient sorti plus fort.
Effectivement, j'aimerais ramener sur ton point, ramener sur un des éléments que tu as amené. Il paraît que c'est le plus cher remaniement ministériel. Savez-vous quoi? Savez-vous qu'on vivait dans un régime démocratique? Et puis que dans un régime démocratique, faire une élection, ça coûte des sous. Ça fait partie des dépenses quotidiennes d'une élection, si je peux m'exprimer ainsi, d'avoir... Donc, moi, là, je deviens un peu à repousse-poil quand on me dit ça, de... on va en avoir une élection municipale. Elle va coûter de l'argent. Oui, elle va coûter de l'argent. Savez-vous quoi? On est en démocratie. Ça permet de faire en sorte que les gens ont à s'exprimer sur... Oui, qui va nous diriger et de quelle façon on veut qu'on se fasse diriger?
Mon Dieu, on est d'accord.
Ben oui, moi, ça, là-dessus, là...
Non, parce que, tu sais, les gens qui disent on aurait pu mettre l'argent ailleurs, écoute, tout l'argent qu'on met, on aurait pu la mettre ailleurs. Oui. Le pipeline qu'on a acheté, on aurait pu mettre l'argent ailleurs.
Exactement.
Les subventions XY, on aurait pu tout mettre ça ailleurs. Maintenant, comme tu le dis, on a le privilège d'être dans un régime démocratique. Moi, j'incite les gens à voter au nom de toutes les personnes sur la planète qui n'ont pas le droit de vote. Tu sais, je trouve ça
important. Il y a cet élément-là. Et il y a aussi le fait que c'est le système que l'on s'est donné pour pouvoir s'exprimer.
Qui est important,
oui, ça coûte
mais
de
qui
l'argent.
Reste plus intéressant qu'une dictature.
C'est évident, oui. Et ça nous permet de pouvoir s'exprimer. On le sait, écoute, 59 % des gens qui sont allés,
59.
Qui sont allés. C'est pas énorme non plus dans un pays démocratique. Ça dénote aussi peut-être que l'intérêt des gens n'était peut-être pas d'aller en élection. La préoccupation n'était peut-être pas non plus d'aller en élection. Maintenant, 59, 58, 60 %, c'est un peu ce qu'on retrouve globalement de plus en plus. À part dans les élections municipales où on se ramasse à 30, là. Mais puis encore là, tu vois, gars, ça, c'est un pouvoir de proximité, puis on se ramasse à 30. Tout ça pour en arriver au fait que, oui, c'est vrai que ça a coûté 600 millions de dollars faire une élection à l'échelle de Anne-Marie ou quoi, Anne-Marie, soit de tout un pays. Hein? Ça a coûté 600 millions. Puis, Ça, ça fait partie, rentrer dans l'économie. Ça a permis aux gens qui font de la publicité de pouvoir en vendre. Ça a permis...
Non, oui.
Veux dire, c'est de l'argent qui revient dans la collectivité, mais surtout, ça permet aux gens de pouvoir s'exprimer. Alors, quand on m'arrive avec cet argument-là, oui, on peut peut-être m'arriver avec l'argument « Est-ce que c'était le temps de déclencher une élection? » Ça, je te répondrai que oui, c'est toujours le temps de déclencher une élection.
C'est jamais le temps en même temps. T'sais.
Exactement, mais c'est que tu veux que je te dise, on avait... Justin Trudeau a profité du fait que O'Toole était mal pris, parce qu'il venait d'être élu, puis le Parti conservateur, faut que ça reconstruise, ça reste.
Moi, j'ai l'impression que le vote de confiance sur le budget de ce printemps, Trudeau était prêt à partir en élection, puis il pensait que son budget allait être battu, puis là, il était pris un peu, tu sais. Fait que là, il a fait « on y va ». Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est les bonnes intentions des partis, tu sais. On veut aller voir les citoyens pour... comprendre qui serait mieux pour nous sortir de la pandémie. Je suis pas sûr qu'il avait été majoritaire, il serait allé voir l'électorat pour
Exact. Mandat, c'est certainement, il aurait fini le mandat. De un, de deux, il aurait... c'est ça, il a profité un peu de la faiblesse des conservateurs au moment où on se parle, parce que, tu sais, les conservateurs pourraient... En fait, c'est eux autres qui ont fait la campagne électorale. Je trouve qu'il a été obligé de se recentrer. OK? Bon, il est obligé d'avoir un discours.
Si. Ben oui,
il est obligé d'avoir un discours, pas conservateur, mais comme on dit, progressiste conservateur, pour pouvoir passer. Parce qu'on a encore en mémoire, pour les vieux voteurs, comme certains, on a encore en mémoire les années de.
Stephen Harper.
OK? Stephen Harper était un conservateur. On a social. Vu ce que ça a donné, et social, et économique, ouais.
Mais le conservatisme économique se défend mieux que le conservatisme social, surtout au Québec, là.
Oui, les maritimes. Au Québec, là, écoute, il y en a un conservateur qui a passé. OK, il s'appelle Brian Mulroney. Puis Brian Mulroney, sais-tu qu'est-ce qu'il avait fait pour passer? Il a pigé dans toutes les idées progressistes du coin, puis voilà ce que nous allons mettre de l'avant. Touk, bing, bang. C'est le même qui a passé. Ouais, il a ramassé.
Il a réintégré le Québec dans la Constitution,
Mais il a fait quoi? Il a amené des idées.
Ouais.
On pensait que c'était les libéraux aussi, là, au pouvoir.
On le voit même post-élection, là, parce que tous les conservateurs, Ontario, Québec, des maritimes, veulent qu'O'Toole reste parce qu'ils savent que ça prend un chef plus centriste pour espérer avoir une majorité. Puis le grenouillage vient de l'Ouest, où là, ils sont pas contents, eux, du recentrage, parce que ça s'éloigne de leurs valeurs, puis ils ont l'impression de perdre des votes au profit de l'excellent...
Bien là, actuellement, dans l'Ouest, ils sont en train de perdre des votes parce qu'ils n'ont rien fait pour la COVID, puis que tout le monde...
Oui, on en a parlé tantôt, là, c'est le bordel.
Mais c'est le phénomène. Le phénomène m'apparaît clairement comme de quoi que O'Toole, il a décidé que son parti, si on voulait prendre le pouvoir, il fallait effectivement être un peu plus, non pas à droite, mais centre-droit pour pouvoir être en mesure d'aller chercher l'électorat. Et certes, tu sais, on va avoir l'occasion d'en replacoter certainement, mais on parle souvent du premier débat en français à TVA, où est-ce que, bon, il a dû reculer, semble-t-il, sur la question des armes de poing. Et j'en parlais tout à l'heure avec Vanessa. Moi, ce que je trouve un peu dommage dans les campagnes électorales, c'est que la presse s'en prend à un moment donné sur un sujet, puis elle tient son os tant et aussi longtemps qu'elle a fait changer toute la question du débat, du pourquoi.
Elle veut contrôler le débat comme les politiciens veulent contrôler le débat.
C'est un peu dommage. Tu comprends? Une fois que O'Toole avait eu à exprimer que, oui, dans son programme, ils font pas des armes de poing, ils vont enlever sur les armes militaires ce que les libéraux ont décidé. Une fois qu'on a informé les gens, pourquoi est-ce que c'est qu'il faut maintenant dire aux gens, « Hey, c'est pas bon ce qu'il a fait. C'est pas bon ce qu'il dit. » Ça, là, OK, ça s'appelle de l'idéologie et de faire en sorte que tu influences ton... Et ça, la presse se fait un jeu là-dessus en prenant juste une question du débat.
Je veux mettre un bémol sur ce que tu dis. T'as pas l'impression... Moi, je suis d'accord avec toi, là. Mais t'as pas l'impression, quand on dit la presse, que les journalistes ils font en partie leur travail, mais c'est les chroniqueurs qui mettent une pression énorme sur les enjeux. Puis dans les journaux aujourd'hui, on dirait qu'on fait beaucoup moins la différence entre un journaliste et un chroniqueur.
Ouais, bien, chroniqueur. T'as raison, on a... la question de la chronique, ça marche peut-être.
Regarde le Journal
plus.
De Québec, là, on est rentré à 50% de chroniques dans le journal-là. Dans donc, on fait de l'opinion, en fait.
Exactement. Le chroniqueur, c'est effectivement quelqu'un qui nous amène une idée. Ben, c'est qu'on fait, là, nous autres, là, moi et toi, là, Audrey, là, on fait de la chronique, on n'informe pas nécessairement.
On part de l'information, puis
exact.
On donne notre avis là-dessus.
OK, bon, mais ça, là, c'est... C'est, oui,
c'est
les gens aiment ça.
C'est nous autres.
Les gens, ouais, mais les gens aiment ça. Ben oui,
en fait, Québec nous suit.
Je le sais. T'as rien qu'en parler infomane. effectivement, les chroniqueurs amènent font dériver, dans un certain sens, les campagnes électorales. Et l'autre point que je trouve dommage. En tout cas, c'est une vieille marotte qu'on tient dans cette émission-ci, en tout cas, tout le moins. Mais la politique, là, c'est pas juste une question de personnalité d'individu. Et quand on fait de la campagne électorale en disant « Monsieur O'Toole n'est pas capable de prendre une décision et de la maintenir, regardez, il change comme... » Là, tu t'attaques à un trait de personnalité de quelqu'un. Je te dis pas que c'est pas vrai, mais je dis pas que c'est pas... Sauf que c'est pas ça, faire de la politique aussi. Ce n'est pas cela, faire juste de la politique. La politique, c'est une question et d'idées et d'actions que nous voulons faire pour pouvoir être en mesure socialement de grandir et non pas de régresser. Et c'est, on peut penser différemment, mais c'est ça qui est faire aussi de la politique. Là, on tire trop sur les messagers. Ouais. Tu sais, regarde. À un moment donné, au niveau du Bloc québécois, Yves-François Blanchet a eu de la difficulté, qu'on le veuille ou non, à démarrer cette campagne électorale.
Une chance qu'il y a eu le débat en anglais. Là.
Exact. ça lui a donné une chance de serpent. Mais qu'est-ce qu'on disait de M. Blanchet dans la campagne électorale? Hey, c'est un quelqu'un de pompeux, hein? C'est quelqu'un qui
maintient
sa personnalité. Exact.
Oui, mais il est très arrogant dans le
exact.
Mais ça,
c'est
ça y appartient.
Oui. Mais ça, là, on a voulu faire la campagne électorale du côté des libéraux sur Blanchet en disant, regarde, la personnalité de Blanchet, c'est quelqu'un d'arrogant.
Mais pas sur les idées.
Ben, exact. Exact. Tu sais, moi, ça, je trouve ça dommage. Puis plus, j'ai peut-être trop vu de campagne électorale dans ma vie, là.
Ouais.
Mais je trouve ça déplorable qu'en bout de piste, c'est là-dessus qu'on prend des décisions. J'ai eu une discussion à un moment donné avec des membres de ma famille, puis indépendamment, puis ils disaient on va voter pour qui? À un moment donné, moi, Trudeau, non. Trudeau fini, il veut rien savoir de Trudeau. Pourquoi tu veux rien savoir de Trudeau? Alors, regarde, là,
ils l'ont dit,
puis il n'a rien fait, puis tout ça. C'est pas une réponse, cela, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste. Par contre, j'en ai un qui dit, moi, je vais voter Trudeau. Il m'a permis, pendant la COVID, alors que j'ai perdu ma job, d'avoir de la PCU. Regarde, au moins, il a voté sur... une action qui a été mise. Et c'est lui et tous les autres partis.
Puis quelqu'un aurait pu voter contre lui pour exactement la même raison.
Exactement. Il a donné à tout le monde de pouvoir pas... Mais tu comprends, au moins, j'ai une raison. Et ce n'est pas juste un trait de personnalité. C'est pas juste le fait... Il est pas beau, il est beau. On s'en fout de ça, là. C'est pas là-dessus que ça tient. Et c'est dommage. Qu'encore aujourd'hui, à un moment donné, des campagnes électorales prennent des chires de cette façon-là parce qu'on s'en tient exclusivement à des traits de personnalité.
Ouais, c'est comme, je me rappelle plus l'année, là, quand il y a eu la campagne où la question, en fait, là, le débat, c'était quasiment autour du vote à visage découvert, là. Mais au bout du compte, ça touchait comme même pas 10 personnes au Canada, mais c'était l'enjeu national pour les élections.
Exact.
Ouais, ça devient complexe. Regardons les partis rapidement, là. Non, mais juste pour analyser leur campagne, leurs résultats. Donc, libéraux, donc ils partent à un point, qui finissent au même point, qui ont conservé leur acquis, ils n'ont pas eu des grosses pertes. Mais dans le sens, un petit peu dans les maritimes que je vous expliquais tantôt, ils sont allés en chercher dans l'Ouest canadien pour balancer tout ça. Il n'a pas eu sa majorité, il va être obligé de gouverner en coalition. Moi, pas en coalition, mais en minoritaire. Moi, j'aurais aimé ça un gouvernement de coalition, en plus.
Mais fort probablement que c'est ça qui peut peut-être arriver.
Moi, je pense que si les conservateurs étaient rentrés minoritaires, on aurait vu un gouvernement de coalition libéraux néo-démocrate.
Oui, là, ça aurait pu arriver. Par contre, c'est sûr qu'on nous répond tout le temps, « Ah, ben oui, mais c'est pas une tradition, on fait des gouvernements. » C'est pas une tradition. Commençons là.
Ben ailleurs, là.
Commençons là.
Merkel, 16 ans de gouvernement de coalition.
Exact.
Bravo, l'Allemagne est très bien placée dans le monde.
Exact. Là. Donc, tu permets de faire en sorte que certains... Oui, puis en plus, une coalition NPD libérale...
C'est assez naturel.
Ça serait.
C'est un vase comme
plus naturel, parce que beaucoup d'éléments, beaucoup d'idées avancées par le NPD se retrouvent dans le programme du.
Puis moi, je trouve, personnellement, le NPD se rapproche peut-être idéologiquement de mes idées, mais j'avais de la misère avec leur campagne. Je trouvais qu'ils ont passé tellement de temps à dénigrer le Parti libéral puis les autres, plutôt que faire valoir leur plateforme. Je trouve qu'ils ont passé à côté. Parce que Jack Minton a un beau capital de sympathie. Les gens l'apprécient. Je sais pas si tu as vu, mais il y avait une question avec qui tu aimerais le plus aller souper. Puis c'est lui qui, dans les chiffres, c'était clairement lui qui gagnait de loin. Mais il reste qu'il y a quelque chose dans sa manière de faire de la politique qui nous amène pas à embarquer.
Ça me fait penser aux dernières élections provinciales au Québec. OK? Ouais. Puis je te parle des élections, là, je te parle pas de la partielle qui avait eu lieu ici, mais. Où est-ce qu'on en était à dire? Faut envoyer Couillard dehors. Ça, c'était le discours du PQ, entre autres. Faut envoyer Couillard. Bon, il l'a tellement dit, là, que non seulement il a envoyé Couillard dehors, mais il a envoyé le PQ dehors, puis ils ont fait élire la gang.
Ouais.
Et ça, là, il faut arrêter de. Je pense qu'il faut.
Mais c'est correct d'être critique envers les autres.
Oui.
Je pense qu'il faut démontrer notre capacité à gérer les choses.
C'est pour ça que je te dis, regarde, Singh, oui, il peut avoir une bonne audition auprès des gens. Il est sympathique, comme tu dis, ça représente. Mais au niveau des idées, on dirait qu'il a fait une campagne électorale pour pas être élu.
Oui, on dirait qu'en partant, il disait, moi, si j'ai la balance de pouvoir,
je vais avoir plus de façons de pouvoir avancer mes idées. Et puis là, je reviens 30 secondes sur Jean-François Lisée disait hier, il a écrit hier, que les libéraux ont la chance de pouvoir se maintenir au pouvoir pour au moins 10 ans, en faisant une alliance avec le NPD.
Absolument.
Or, c'est peut-être une ouverture. Je ne sais pas jusqu'à quel point Trudeau va vouloir essayer cela, à mettre 2 ou 3 néo-démocrates dans le cabinet pour pouvoir être en mesure d'avoir une coalition. C'est sûr que toutes les idées du Parti libéral ne se retrouvent pas toutes au niveau du NPD.
Non, mais
au moins, tu vas être capable,
plus que, mettons, conservateur NPD.
Et plus que de mettre le NPD, parce que le NPD, là, il ne peut pas s'en aller dans une autre élection la nuit demain matin. Là. OK?
Je pense qu'il n'y a pas un parti qui a le goût de ne pas repartir.
Non, en plus de plus, ça veut dire que si ça a coûté 600 millions de dollars pour les partis, ça coûte aussi quand même une certaine
somme. Je pense
qu'on sera ouvert à la question, d'avoir un gouvernement, qu'on veuille ou non, même de si M. Jean-François Lisée n'est pas toujours d'accord avec lui, mais une coalition.
Oui, bien, c'est ça que j'allais dire. Hein, c'est le fun d'entendre que Jean-François Lisée n'a pas perdu tous ses esprits. Moi, je suis pas. On embarque pas là-dessus.
Non.
Parce que aussi, mais imagine,
on fera pas de la personnalité.
Mais imagine aussi une coalition libéraux bloc. Comment le Canada anglais serait.
Ah, c'est pas pensable.
Non, le bloc veut rien savoir de ça de toute façon.
Mais ce n'est pas pensable ni avec le bloc là. Et quand c'est le. Ben, on peut peut-être en placoter
tout de suite.
Mais le bloc, là, ça, c'est comme quand tu as eu les créditistes des années 60. Le Québec élisait des gens qui étaient du Québec pour aller à Ottawa et, oui, défendre les intérêts des Québécois.
Ou court-circuiter la politique fédérale.
Pas avec les créditistes. Avec le Bloc, peut-être un peu plus, mais encore là, tu sais, le Bloc, il est même, c'est un parti qui est au fédéral.
Oui.
Hein? C'est pas un parti indépendantiste québécois.
Non. Puis,
hein?
Puis moi, dans le discours, donc, là, je vais être honnête, là, il y a des affaires dans le discours du Bloc que j'aime pas, puis ça serait n'importe quel parti, j'aimerais pas ça. Ouais. Moi, ce que j'aime pas, c'est deux poids, deux mesures. On va s'insurger contre le Québec bashing, mais les Québécois, on est les premiers à faire de l'Alberta bashing, puis il n'y a personne qui s'élève de ça. Nous, là, si c'est pour le Québec, hey, mais si, mettons, il y avait un parti comme le Bloc québécois au Manitoba, là, hey, on serait les premiers, les Québécois, à être fâchés de ça. Là. Puis on fait vivre ça aux autres, puis là, on veut, tu sais...
Mais t'as vu, le phénomène dans l'Ouest canadien, il existe, là, ce phénomène-là. Le
Maverick Party.
Ben oui, c'est bien.
0,1% des
votes. Oui, mais il est là. Mm-hmm. Et il dénote, oui, il passe pas parce que les conservateurs prennent trop de place, là, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va s'enclairer avec les conservateurs. Mais plus ça va aller, plus certaines idées vont arriver aussi dans l'Ouest canadien où on va dire, ouais, on aimerait peut-être être bien représenté, nous
mais
autres.
Ça, la veine proportionnelle, ça serait génial. Hein?
Ça permettrait. D'avoir, maintenant, avec la proportionnelle, moi, c'est une question de légitimité.
Bien, c'est bien plus légitime une proportionnelle.
Pas nécessairement.
Ah, absolument.
Pas nécessairement.
Parce qu'il n'y a pas un parti qui va se rentrer au pouvoir avec 33% des voix.
Non.
Ils vont être obligés de faire des coalitions, meilleure représentation des différentes idées. Regarde les Verts en Allemagne, qui sont rentrés au Parlement à un député fin des années 70. Mais aujourd'hui, les Verts, c'est une réelle coalition qui a pu amener des idées depuis 30 ans. Au lieu d'être confinés en arrière-ban juste aux campagnes électorales de faire l'environnement, bien, l'Allemagne est-elle en avance sur le Canada au niveau environnemental? Solide. Bien, ça l'amène, cette disparité-là. Puis avec une proportionnelle mixte, bien, on aurait autant de représentation territoriale, donc on continuerait d'avoir des députés, mais on aurait aussi une représentation idéologique, ce qui nous permettrait, par exemple, moi, je pense à l'époque de Denis Lebel, que je trouvais un excellent député, mais moi, les conservateurs, c'était pas mon parti. Fait que j'aurais pu voter pour Denis Lebel, mais voter pour un autre parti parce que je crois plus à l'idéologie de l'autre parti. Donc, ça amène une diversité, moi, je trouve. Puis c'est ça, la démocratie.
Mais ça permet... si tu amènes ça, parce que, bon, il y a la proportionnelle aussi qui fait en sorte que si tu as dans une région 33 % des gens qui ont voté pour les candidats... Le candidat conservateur, disons, dans une région, les conservateurs ont obtenu 33. Donc, tu as 33 % t'as un député sur trois qui vient du parti, puis qui n'a pas été, lui, ni élu, ni mais tout ça, mais qui fait partie d'une espèce de chambre.
Oui, mais dans une proportionnelle pure. Mais si on fait une proportionnelle mixte, on a les deux aspects. C'est là que c'est intéressant.
Mais là, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah, ben garde, oui, moi, là... Je vais faire un vote et pour l'homme et pour le parti.
Ouais.
OK? Mais si tu fais ça, tu empêches le fonctionnement. Tu empêches un fonctionnement. Tu permets de faire en sorte que tu peux peut-être élire un gouvernement libéral plein, OK? Qui va être. Qui a obtenu une majorité, mais tu as dans l'opposition peut-être des gens qui vont. Être en termes de nombre, qui ont, eux, ont reçu une légitimité de la part de l'électorat, qui sont peut-être majoritaires. Aussi, tu peux peut-être avoir élu plus de candidats conservateurs que de.
Élection.
Oui, mais là, à ce moment-là, ici, là, si tu fais élire plus de conservateurs, ils vont faire le pouvoir. Eux autres vont être au pouvoir.
C'est ça l'idée. C'est ceux qui ont plus de candidats qui mettent.
Mais si tu votes, comme tu dis, et conservateur et libéral, disons, parce que tu dis, je vais voter pour le candidat ou les candidats du parti libéral. Par contre, moi, le gars, là, comme tu disais tout à l'heure, Denis Lebel, bon, il était conservateur, mais... Tu votais pas conservateur. Ben, mais tu votais, tu sais...
Mais tu trouves pas que dans le modèle qu'on a présentement, ce qui arrive, c'est qu'on est supposé de voter pour le meilleur candidat dans notre comté. Personne ne fait ça. On regarde les campagnes de chefs. On gagne l'idéologie du parti. On vote pas. Non, mais c'est vrai, on a complètement dénaturé. Et en plus, ça permet à des gouvernements de pouvoir être élus avec 33-34 % des voix et de parler au nom de 100 % de la population. On le voit souvent. Et en plus, c'est que tu serais capable d'avoir plein de petits partis qui pourraient avoir un, deux députés et amener des idées. Donc, participer au dialogue politique. Puis ça nous amènerait, moi, je pense, ailleurs, là, politiquement. Mais il faut accepter les gouvernements de coalition. Il faut accepter un autre fonctionnement.
Ah ouais,
on n'est pas rendu là, là.
Non, non.
On est très loin. Puis rappelle-toi, là, les belles années là, où l'ADQ allait chercher 20 % des voix puis il y avait trois députés. En tout cas, moi, je crois beaucoup à la proportionnelle mixte, là. Pas la proportionnelle pure, parce que ça, je trouve que ça amène... C'est pas l'idéal, mais je crois beaucoup à ça. Bon, on revient.
Okay.
Là, on va faire trop de temps là-dessus, mais on adore ça. Bon, les conservateurs, on en a parlé un peu. Recentrage du pouvoir qui a fait des gains ailleurs, qui en a perdu ailleurs. On peut aussi parler de la famélique campagne des Verts. Écoute, quasiment comme...
Bon, Québec, il était pas là.
Non, mais... Puis en plus, c'était quasiment, à Annemie Paul, comme un suicide professionnel.
Oui.
Elle est chef d'un parti, elle chicane avec son parti, puis en plus, elle va se présenter dans un château fort libéral où elle a aucune chance d'être élue. Je sais pas, moi, je serais allé ailleurs pour... Je sais pas. Je suis peut-être niaiseux, là. Stratégiquement, je trouve que c'est hard. Et de l'autre côté aussi, Maxime Bernier, notre candidat libertarien qui va chercher quand même 5 % des votes, fait qu'il va être là au prochain débat des chefs, chanceux. On va avoir un... Ça va être amusant.
Ouais.
Non, mais c'est ça, la disparité, hein. Il faut accepter ça.
Oui.
Accepter ça en démocratie. On décide de mettre des règles.
Pas de problème pour ça, là, pour que toutes les idées méritent d'être énoncées.
C'est la manière de
Il mérite d'être énoncé, mais il mérite aussi d'être critiqué. Par contre, Maxime Bernier, je suis pas capable. Je m'excuse, je suis pas capable de faire une analyse.
Il sort les gros mots, là, totalitaire. Tu sais, il faut dire. Il faut vraiment pas connaître la politique pour traiter nos politiciens canadiens de totalitaristes ou de dictateurs. Là. Ça veut dire que tu n'as jamais voyagé et tu n'as jamais été voir ce qui se passe ailleurs. Parce que juste le fait de pouvoir manifester contre le gouvernement, ça nous prouve qu'on n'est pas dans une dictature.
Tu sais, la politique, c'est aussi. Oui, c'est noir, c'est blanc. Puis souvent, de fois, le résultat, il est gris. Or, lui, il est soit blanc ou noir, puis les libéraux sont soit blancs ou noirs, les conservateurs sont soit blancs ou noirs. Mais la politique, ce n'est pas... ça conduit, OK, l'élaboration d'idées de cette façon-là, ça conduit à des ce qui se passe aux États-Unis, là, ce qui s'est passé avec Trump. C'est à ça que ça conduit et... Ça fait en sorte que la violence va prendre...
Moi, je pense que par l'éducation, premièrement, on a un problème. Il y a 50 % de Québécois qui sont analphabètes fonctionnels. Ça n'aide pas à la compréhension de la politique, de ce qu'est la citoyenneté. Puis je pense que par l'éducation, ben, on peut se sortir de là. Mais là, il faudrait commencer par donner un cours de citoyenneté, donc de politique de base au secondaire pour tous les jeunes. Parce qu'en ce moment, là, avoir une introduction à la citoyenneté, là, à moins d'avoir un intérêt pour ça, il faut que tu sois en sciences humaines au cégep. Donc, on enlève à peu près 80 % des gens la possibilité d'apprendre à connaître juste leur système, comment ça fonctionne, c'est quoi leurs droits, leurs devoirs, leurs responsabilités, qu'est-ce qui se passe chez nous, tu sais. Je veux dire, c'est primordial, puis on le fait pas en société. Après ça, ben, on s'étonne de voir que la population manque d'éducation politique.
Oui. Et maintenant, et l'intérêt, je veux dire, l'intérêt des gens à la chose politique, elle est, qu'on le veut ou non, minime.
Bien, le cynisme en bien. Bien, les politiciens ne se sont pas aidés en général.
Il y a ça, la presse. Je sais que je suis très critique à l'endroit de la presse, mais ce n'est pas vrai que ça n'appartient qu'à quelques individus, qu'ils soient masculins ou féminins, de pouvoir faire en sorte qu'un débat, ça se porte de cette façon-là. Et ça, la presse amène là-dessus une façon. Tu vas te donner... Regarde, je vais te donner juste un exemple. J'ai écouté la soirée électorale à Radio-Canada. À Radio-Canada, il y a quelques chouchous OK, il y a quelques partis chouchou, mais il y a le système Ruth-Hélène.
Brosseau.
Oui, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, cette personne.
Bon, on en a parlé beaucoup. Hein?
Exact.
Oui, oui.
Alexis Brunel-Duceppe.
Par hasard. Son père est dans la salle.
Son père était dans la salle, puis tu sais ce qui s'était passé. Oh, ça a été aux dernières années, en 2019, ça a été la soirée électorale.
Le moment. Là,
on a voulu essayer de revoir la même affaire, puis je pense que ça, plus ou moins, ils ont compris. Ouais. Mais tu comprends, eux, là, il y a quelques personnalités comme ça encore qui dénotent ou qui. Tu orientes mal, qu'on le veuille ou non, aussi le débat quand tu t'en tiens juste à cela. Ça ne permet pas d'avoir une information. On fait du spectacle, information. Et quand on fait du spectacle, information, on a des résultats de spectacle, information.
Bien, c'est ça, à ce temps, les médias, c'est rendu des tu sais, ils marchent au clic, ils veulent être financés, c'est des
coûts. Exact.
Merci, Jules. On ferme le dossier élection fédérale, on prend une pause et on revient avec le dossier élection municipale. À tout de suite.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle.
Ça manque d'art d'ici, ici et ici. Et si on retrouvait l'art d'ici, ici, ici, ici aussi et ici?
Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner.
On est de retour. J'espère que vous avez pris une belle pause et on vous revient avec Jules Simon à parler d'actualité. Bon, on met de côté les élections fédérales et là, on rentre carrément dans les élections municipales. Je veux avoir ton avis sur ce qui se passe dans la MRC Maria-Chapdelaine. On sait, par exemple, à Dolbeau-Mistassini, mais il y a beaucoup de maires, en fait, qui
sont plus là.
Qui quittent.
Qui quittent.
Et là...
Ça, c'est un phénomène.
Oui, et là, ça, c'est un phénomène. Et deux, bien, à date, j'ai peur qu'on manque de candidats pour qu'il y ait vraiment une démocratie, une lutte, autant comme conseiller que comme maire, dans plusieurs municipalités. Je ne sais pas, ça me fait peur, moi, au niveau de la démocratie, là.
Et de l'intérêt des gens à prendre la chose publique en main.
Bien, c'est parce que c'est compliqué, là. Je veux dire, quelqu'un qui a une job, qui a une famille, là, qui se lance maire,
tu peux
là, tu peux pas. Alors, fait que là, ça limite, là, on a vu passer.
Ça limite quasiment la candidature exclusivement à des retraités.
Mais tu sais, parce que Pascal Cloutier a fait une super belle job ici à Dolbeau-Mistassini. Mais je pense que le fardeau de tout ça, avec sa carrière, sa profession, etc., je veux dire, à un moment donné, il a fait. Bien, je pense un peu à contre-cœur, mais il a fait un choix. Puis je peux comprendre, tu sais, c'est très demandant, je pense, pour des...
Oui, les élections, pas les élections, mais que tu sois au municipal, le pouvoir municipal demande aux gens qui le détiennent de plus en plus de temps. Avant ça, tu t'en allais conseiller dans une municipalité, t'as peut-être deux petites réunions par semaine, à part le fait que tu pouvais faire les
beaucoup plus de
là, aujourd'hui, tu te ramasses à 3-4 réunions. Souvent, de fois, il faut que tu les fasses en même temps que tes fonctionnaires, hein, pendant qu'ils travaillent. Donc, si toi, tu travailles à quelque part, t'es obligé de quitter ton emploi, ça te prend l'emploi. Et ce phénomène-là entre beaucoup en ligne de compte. Et il y a aussi un phénomène. Hey, sur 12 municipalités, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, en 12 municipalités dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Si ma mère, mes fidèles, t'en as 10 qui sont partis dans les mers.
C'est énorme.
Hey, ça veut dire quoi, ça? Veux-tu dire que ils sont tellement tannés que...
Peut-être que la pandémie, c'était un gros...
est un phénomène, oui.
Je pense qu'il y a personne qui s'était lancé en politique il y a 4 ans qui
voulait gérer une pandémie.
Ouais, c'est ça, là.
Ça, c'est évident. C'est évident. Par contre, le phénomène aussi, c'est que là-dessus, tu avais quand même des gens qui avaient plus qu'un mandat, là. Hein, qui était...
ben, on pense à Saint-Thomas, on pense
à Saint-Thomas-Didyme, à Lorette. Pense aussi, dans un certain sens, à Saint-Edmond aussi, où on avait quand même quelqu'un qui a...
Albanel, Mme Chiasson, ça fait au moins 2 mandats.
Ça faisait 2 mandats. Si ouais, là, il y avait eu quand même du changement là, qui s'était fait. Là,
en même temps, il y a Mme Plourde avant, Mme Chiasson travaillait avec Mme Plourde.
Il y avait une forme de continuité. Là, la question qu'il va falloir se poser, c'est, oui, il va-t-il y avoir des candidats qui vont se présenter? Et compte tenu de l'intérêt de la population actuellement à la chose politique, et là, je pense que le résultat au fédéral nous le démontre, là, OK? Oui, ça va être difficile, fort probablement, d'avoir du monde qui vont se présenter sur les rangs. Et ce que tu vas avoir, c'est, entre autres, dans les municipalités rurales, ce qu'on va avoir assisté, c'est que tous les sièges ne seront pas comblés le soir de l'élection.
C'est ça, ma part.
Donc, tu es obligé de retourner après en élection dans la même année parce que faut que ça te fasse au moins dans la dernière année d'un mandat où tu peux aller chercher quelqu'un. Mais à part ça, faut que tu ailles en élection, là.
Comment t'expliques cette problématique-là ici? Quand on voit, par exemple, à Saguenay, qu'il y a 7 candidats en mairie et à peu près 250 comme conseillers. J'exagère.
Par contre, si tu as 7 candidats à la mairie, tu en as fort probablement qui sont là pour se présenter afin de pouvoir répartir le vote et permettre à quelqu'un de pouvoir gagner peut-être avec 25 % du vote. Là.
C'est le phénomène. Clairement, plus il y a de candidats, plus ça, selon moi, c'est l'avantage, Mme Néron.
Oui, oui, mais tu vas atténuer effectivement les résultats.
Et ici,
avec
à date, il n'y a pas de lutte. Là. Dans aucune municipalité, on sent qu'il y a des luttes à la mairie?
On me parle peut-être là à Dolbeau-Mistassini, ce que j'ai eu en sourdine. Là, oui, on sait qu'il y a André Guy qui a annoncé qu'il pourrait être candidat. M. Rousseau a annoncé qu'il pouvait être candidat, mais non pas à la mairie. Okay. Et on me parle du propriétaire du dépanneur Pierrette, j'oublie son nom. Mais qui pourrait être allé à la mairie.
Okay.
Donc, on aurait une lutte là,
à
la mairie à ce niveau-là. Ou encore, il peut aussi se présenter sur le siège qu'occupait Patrice, soit sur le siège numéro 2, là, où il pouvait y avoir. Maintenant, il va y avoir fort probablement quand même des gens qui actuellement ne se sont pas annoncés. Mais on n'a pas de leader connu. Outre André Guy, qui est maintenant rendu à sa retraite, n'a pas de leader connu dans le milieu qui ont annoncé effectivement qu'ils seraient soit sur la question de la mairie ou encore à l'échevinaire. Et ça veut dire que des forces vives, là, on en a pas de moins en moins, mais on s'affiche de moins en moins. Et la tâche qu'exige la direction, faire en sorte que, oui, on a peut-être moins de jeunes qu'on pensait qui peuvent peut-être s'en aller et nous dire qu'est-ce qu'eux autres voient là, comme possibilité. Parce que les débats, pas les débats, mais les questions à soulever pour cette campagne, dans la campagne électorale et pour les 4 prochaines années, sont quand même aussi cruciales pour le développement de notre collectivité. Et ça nous prend des gens qui vont vouloir y arriver. Maintenant, je pense qu'il faut s'attendre quand même à avoir des candidatures minimalement au poste de mairie. Là. Il y a des candidats. Pas comme je discutais avec le maire sortant de Saint-Eugène d'Argentané. Il y a quelqu'un, effectivement, qui va se présenter, qui fait partie du conseil actuel. Et mais qui n'est pas encore annoncé. Qui ne s'est pas encore... Ben, il ne s'est pas encore annoncé. Il s'est peut-être annoncé à Saint-Guilmain, peut-être pas auprès de la presse. Mais ça, donc, oui, il y a des candidats comme ça qui font partie de conseils actuellement puis qui peuvent avoir idée de se présenter, entre autres, à la mairie. Faut pas... Mais le phénomène de voir partir... En tout cas, il y a au moins 10 maires là, qui valent. C'est une question. Regarde, à Albanel, il y a Plourde qui a annoncé qu'il se présentait, qui est un conseiller actuellement, puis qui, lui, va être sur les... On va s'attendre à avoir, je pense qu'il peut y avoir, de par les conseils municipaux, surtout sur des postes à la mairie, oui, des gens qui originent des...
J'ai hâte de voir ça, parce qu'on avait une belle représentation de mairesse aussi. J'ai hâte de voir le comment ça va bouger.
Oui, on a déjà été...
Il y a Mme Proulx à Péribonka qui s'est annoncée. J'ai hâte de voir aussi là, comment ça va bouger tout ça. Bon, on le sort des élections. Là, on parle d'un enjeu. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Air protégé versus industrie forestière. Les abords de la Péribonka. Décision surprenante d'un gouvernement caquiste. Moi, j'ai été le premier surpris de cette décision-là, parce que... C'est un gouvernement qui a déjà démontré à nombreuses reprises qu'il nichait avec la grande entreprise, là, qu'il préférait les grands projets économiques. Maintenant, comment tu analyses cette décision? Puis là, il y a l'Alliance Forêt-Boréale qui est sortie en disant « Ah, oh, l'industrie forestière, là... »
Oui, bien, il y a le phénomène... moi, ce que je trouve... Il y a un phénomène naturel qui s'appelle la tordeuse du bourgeon d'épinette qui est en train de... Dans mon coin, là, où je viens mon chalet, là, OK, en avant, là, j'avais une très belle montagne. Là. Très, très beau. Elle est rendue brune, la montagne. Mm-hmm. Ça fait 2 ans que la tordeuse a passé. 2 ans, donc les arbres sont en train tout de mourir. Là. Et là, ce qu'on va faire en sorte que, c'est que dans le secteur en particulier, la tordeuse a effectivement passé. Mm-hmm. Et dans 2 ou 3 ans, les arbres vont tous tomber. Et là, le paysage va devoir changer. Parce que... Alors, je pense que il y a des décisions qui doivent se prendre, oui, environnementales. C'est important, je pense, qu'on ait, oui, des questions d'air protégé. Mais là, il faut faire attention.
Le 17 % d'air protégé du gouvernement là, sont tous dans des lieux où on ne peut pas aller. Là. Ça devient un peu insignifiant.
Bien, d'une façon, disons, par définition, un air protégé aussi, tu ne peux plus y aller.
Tu
ne peux plus y aller. Un air protégé, tu ne mets pas le pied d'un humain là-dedans. Niette, tu regarderas ta loi comme il faut, mon boss. Il n'y a pas de chat qui peut aller là. Là, on fait du tourisme avec ça. Non, Christophe Colomb, tu ne feras pas...
Non, parce que l'industrie touristique, là, dans ce qui est... En fait, en lien avec
le Péribonka, tu es Charivier.
Hein, oui, mais c'est ça. Mais ça crée des emplois. L'industrie touristique a pesé du côté des gens qui voulaient protéger. Là, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup. On a beaucoup parlé d'industrie forestière, mais l'industrie touristique là, était opposée à l'industrie forestière là-dedans. Pour eux, là, c'est une pépinière de jobs et d'argent à faire aussi avec ces aires-là. Là.
Oui, mais pas pour... Tu ne peux plus mettre le pied dans une aire protégée. OK? C'est toute l'air qui est donnée. Par contre, oui, tu peux la contourner, hein? Comme là, t'embarques sa rivière, là. Tu peux pas protéger juste la rivière. Là. T'embarques la rivière, tu vas le voir, mais tu peux plus débarquer sur les rives.
Non, mais c'est quand même plus beau, mettons, une forêt que
rien. Oui, mais une forêt qui a été ravagée par la tordeuse du bourgeon d'épinette, tu m'en reparleras.
Non, mais est-ce qu'on peut pas faire un entre-deux, dans le sens où on pourrait faire de la coupe sélective pour enlever les arbres malades? Pour faire des trucs, mais c'est pas ça que l'industrie forestière veut non plus. Fait qu'elle aussi, faut qu'elle mette de l'eau dans son vin, puis qu'elle arrête de vouloir juste prendre du bois pour faire du gros cash dans ses poches. On vit d'un milieu où on est dans la nature, là. On a le droit de vouloir en profiter, tu sais.
Oui. Et par contre, c'est parce que là, le phénomène, c'est ça, c'est est-ce que... Moi, je serais d'accord. La tordeuse n'aurait pas passé, là. Oui. Envoyons. Pas de coupe forestière. On va attendre que la forêt... s'élimine de par elle-même, parce que les arbres viennent qu'à tomber à un certain temps, puis il y en a d'autres qui repoussent, puis on va permettre cela. Mais là où on se ramasse à faire en sorte que il y a... Quand tu as une calamité naturelle, quand ta forêt a COVID-19, là, via la il faut que tu fasses quelque chose. Ben, il faut que tu fasses. Ou tu permets de faire en sorte
que moi, là,
le bois, il n'y aura plus aucune. Dans trois. Quand la tordeuse a passé dans une place, tu as 3 ans pour ramasser tes arbres.
OK. Sauf qu'il y a une autre affaire. Puis ça, on n'en parle pas assez. C'est quand on fait confiance à l'industrie forestière pour faire de la coupe sélective puis s'occuper de nos territoires, là, c'est un peu dégueulasse après, là. Moi, là, j'habitais à Vauvert. Là, ils sont venus puis ils ont donné les droits de coupe là, sur les terres de la couronne. Puis là, au début, c'était supposé d'être beau. Écoute, ils ont fait des gros chemins, des ravages, des trous partout. C'est rendu dégueulasse dans ce coin-là d'aller se promener dans le bois. Je veux dire, ça, ça nous appartient à nous. Là. Ça n'appartient pas aux compagnies. Là. Moi, j'ai... Je sais pas.
Je pense que c'est le débat. Je suis d'accord avec toi qu'il faut qu'il y ait une solution, OK, mitoyenne.
Moi aussi, okay? Ça, je suis d'accord.
Ça, il faut qu'on y réfléchisse. Il faut qu'on la mette de l'avant. Maintenant, on peut-tu accepter une perte économique? Oui. Je pense que oui, qu'on pourrait accepter qu'une perte économique reliée à la forêt qui est là. Mais le problème, c'est que ce pourquoi
on parle juste d'argent, là. Ouais, c'est une valeur.
C'est ça, ben, c'est ça que je voulais t'amener, là. Actuellement, ce que tu vas avoir, c'est aussi une perte écologique dans le milieu de la Péribonka. Parce que les arbres qui font la beauté de ce paysage-là vont non seulement devenir bruns, mais ils vont tout tomber. Et comme ils vont tomber, ben oui, mais là, tu vas avoir ce que j'ai, moi, en haut de la montagne que je te parle.
Non, mais t'es pas sur la Péribonka, là. C'est parce que moi, ce que j'ai entendu dans les branches, là, c'est que l'industrie, là, a fait tout le temps miroiter la tordeuse, là. Puis il y en a peut-être, mais il semble que les évaluations de présence de tordeuse ont été un peu boostées par l'industrie forestière.
Ben,
parce
que ça a deux avantages. Hein, elle y est allée.
Hein?
Elle est là. Et... je ne pense pas que tu l'élimines en un seul hiver.
Peut-être.
À part que d'avoir le fameux produit là, qu'ils nous mettent pour pouvoir étendre... Ouais.
Le napalm.
Le napalm à tordeuse.
Ouais.
À part ça...
Mais je suis tanné aussi qu'on se renvoie la balle. Là. C'est comme un contre l'autre. On peut-tu travailler ensemble? Je suis tanné, moi, que c'est tout le temps la menace. Ah, ben là, on va perdre de l'argent. Ah, ben là, on va perdre... On peut-tu se parler? Puis je trouve que le gouvernement s'est montré plus brillant que le débat là-dedans. Pour une rare fois, il a été à l'écoute, je pense, des deux côtés, puis il va arriver avec une solution. En tout cas, moi, j'étais content de la solution trouvée.
À bord avec toi.
Super! Génial! Bon, la MRC Maréchal de Laine, surplus de près d'un million de dollars, 952 000 $ pour un... On pas le droit de faire de surplus, une MRC?
Bon, en fait, on n'a pas le droit. C'est bien, hein, 50, 60 000 piastres dans une année, c'est parce que tu nous as taxés comme il faut.
Ouais.
Mais quand, là, OK, tu en es rendu à 900 000 $ c'est parce que tu n'as pas réalisé le projet que tu... C'est parce que tu n'as pas réalisé le projet que tu voulais mettre de l'avant ou encore que tu les as réalisés juste en partie. OK, et que tu te ramasses avec 900... Est-ce que ton compte de banque, est-ce que ton compte de taxes va baisser de 900 000 $ l'année prochaine. Est-ce que tu vas le voir sur ton compte? T'sais, ils ne baisseront pas de 900 000, ouais. Mais proportionnellement parlant. Parce que ce que tu as fait avec ce rang-là, tu n'as rien fait. Donc, tu t'es mis à la chercher et là, tu ne fais rien avec. Il faut, je pense... Moi, c'est ça qui me rend mal à l'aise quand je vois apparaître un surplus de cette... Tu n'as pas réalisé ça pourquoi tu m'as taxé. Puis là, il faut que je te dise, OK, parfait, t'as un beau surplus cumulé. Bien, ton surplus cumulé, là, OK, t'es pas supposé de me faire ça.
Ouais, c'est ça.
Non, t'es pas supposé, il faut que tu me gères. Faut pas que tu dépenses fait ton là, budget, on... mais faut...
Ouais. Fait que là, on pourrait le voir comme une bonne nouvelle en disant, bien, cette année, il va y avoir beaucoup d'investissements.
Ou encore, ton compte de taxe va baisser.
Non, mais je pense qu'on est dans une période où on a le goût d'investir dans nos milieux. Non?
Oui. Mais le 900 000, il serait intéressant
de
savoir
comme on
où est-ce qu'on l'a pris.
Deux,
où est-ce qu'on l'a pris?
Ouais.
Est-ce que c'est les revenus...
que les gens
non, les revenus de la centrale, de la mini centrale de la 11e chute.
Peut-être.
Et on l'a peut-être pas assez dépensé là-dessus, puis les revenus nous ont perdu. Si c'est ça, alors moi, ce que je veux, c'est que donc cette année, on devrait s'attendre à avoir encore un surplus. Hein? Bien, ce que je veux, c'est que ton compte de taxe baisse.
et qu'on fasse des projets. On peut-tu séparer la poire en deux, un peu comme dans l'autre débat?
Je trouve que les deux.
On est tout le temps un peu blanc ou noir, là, mais il y a plein de solutions mitoyennes là, qu'on devrait explorer. Plus de dialogue, hein, moins d'intransigeance, je
pense. Parce que c'est ça, il serait intéressant de voir où ce qui origine ce 900 000 $-là. Si c'est parce qu'on n'a pas réalisé les projets et puis qu'on ne les a pas réalisés à cause de la COVID, parce que ça nous empêchait de le faire, on comprend.
La COVID a le dos large.
Mais on a, oui. Elle est large et elle a le dos large aussi. Par contre, si c'est au fait qu'on a reçu les revenus, entre autres, de la 11e chute, qui fait en sorte que, bon, tu te ramasses avec des surplus parce que cet argent-là, qui arrive là, mais elle se doit d'être réinvestie dans le milieu. Alors, et elle se doit d'être réinvestie auprès de projets qui sont menés par la population et pas nécessairement des projets menés à... Tu as des fonds là, qui sont attribués à des gens qui veulent se partir en entreprise ou des choses. Qui origine de ça? C'est parce qu'on n'a pas eu assez de projets. Donc, on fait quoi, là? Tu comprends? Ben moi, je pense que ce qu'il faut qu'on regarde, c'est que oui, on peut mener des projets, les faire mettre de l'avant, mais par contre... Si, effectivement, c'est supposé d'être récurrent, ça veut dire que j'ai permis de faire en sorte que le milieu naturel produise de l'électricité et qu'il me rapporte des revenus. Alors, ça voudrait dire... Ben là, actuellement, là, l'Hydro-Québec, là, hein, quand ils font des profits, là, ils font quoi, là? Hein? Ils envoient au gouvernement dans le fonds consolidé. OK? C'est ça. Pour ça qu'on a créé aussi l'Hydro-Québec. C'est pour ça qu'on a... Donc, c'est pour faire en sorte que tu as des revenus qui ne sont pas des revenus de taxation pour l'État, mais qui sont des revenus qui sont d'une activité qui est maintenant étatisée. Donc, ça veut dire que ton compte de taxe se doit de refléter aussi cet élément-là.
OK. Hey, dernière nouvelle que je veux avoir ton avis là-dessus. Le plan du gouvernement de François Legault pour ramener les infirmières au travail. Moi, ce qui me fait capoter, là, c'est que quand on est en train de négocier, là, on coupe, on serre, on réorganise, on veut faire des économies d'échelle. Puis là, go, quand tout est en train de s'écrouler, là, on est prêt à sortir le chéquier, puis là... Je trouve tout le temps deux poids, deux mesures, puis on attend tout le temps d'être confronté au désastre avant d'agir. Je sais pas si on... La prévention, on ne connaît pas ça dans nos gouvernements.
Oui, mais je pense que le débat actuellement au niveau de la santé, là, il est plus que juste une question de convention collective. Moi aussi, j'ai été surpris quand j'ai vu arriver les premières annonces du plan faites par le Goyen. Elle dit, ouais, mais c'est quoi l'affaire? Les infirmières te disent toutes que c'est pas de l'argent qui est le problème, puis que tu mets de l'argent pour pouvoir régler le problème. Parce qu'ils ont commencé par ça.
Moi, mon père, là, il était dans le domaine de la santé toute sa vie, puis quand il analyse ça, on avait exactement le même problème des années 80.
Exact.
Fait que, tu sais, fait longtemps qu'on le sait, c'est quoi le problème, là? C'est les horaires de travail.
Les horaires de travail et aussi le fait que, oui, tu as beaucoup eu de départs. Tu sais, en 1996-17, quand le gouvernement du Parti québécois a décidé de mettre beaucoup de personnes à la... Là, tu en as créé un problème aussi. Hein? Tu en as créé un. Des infirmières qui ont décidé « Qu'est-ce que m'en va à retraite? M'en va à retraite et me donne ma retraite tout de suite. » Or, ça, ce phénomène-là, on n'a jamais été capable non plus de reprendre le manque à gagner. Or, oui, il y a un manque de personnel.
Ouais. Puis aussi, un autre désastre annoncé, là, c'est qu'il y a beaucoup dans les témoignages qu'on lit qui disent il n'y a plus de leader dans le bateau. Ouais. On n'est pas capable. On a un problème, il faut monter à Chicoutimi pour en parler. Il n'y a plus de direction dans les hôpitaux. Puis ça, je pense que c'est un gros manquement. Puis on l'avait dit lors de la réforme Barrette, que c'est ça qui allait arriver. Ben non. Regarde, on est dedans. Là.
On est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on a, on a vraiment le problème. Mais maintenant, ce que le ministre de la Santé a amené, c'est la chose suivante. Actuellement, il manque 4 000 infirmières. Et pour pouvoir être capable d'aller les chercher, ces 4 000 infirmières-là, ils existent dans le milieu. Ils sont soit à la retraite ou soit encore dans le privé. Et il y en a quelques jeunes là, qui vont sortir puis s'intégrer, mais eux autres, ils pensent bien être capables. Puis l'autre phénomène, l'autre problème qu'il y a, c'est que tu as beaucoup de temps partiel et très peu de plein temps.
Ben oui.
Or, il dit, pour pouvoir régler mon problème, je vais au départ. Puis l'autre problème, c'est le travail temps supplémentaire obligatoire.
Absolument.
Or, il dit, pour ça pouvoir régler, il dit, il faut que je marche avec quelque chose. Un, il dit, ça me prend du monde. Il dit, là, actuellement, j'ai pas assez de monde, je suis toujours obligé de faire recourir au temps supplémentaire, au temps supplémentaire obligatoire, TSO. Je suis toujours obligé de faire appel à ça pour régler mon... Donc, ça me prend du monde. Pour pouvoir aller chercher du monde, il dit, là, actuellement, tout le monde part de mon système, puis il dit, ils s'en vont soit dans le privé ou soit à la retraite. Mmh. Or, il dit, pour pouvoir être capable... je vais essayer de les réattirer avec une prime à l'embauche.
C'est plate okay. pour ceux qui restent, hein, qui n'auront pas la
non,
prime.
Non, ils l'ont, les autres aussi. Oui, oui, ils l'ont, les autres aussi. Oui, bien, c'est justement... Le go a été clair à ce niveau-là. Celles qui ont resté ont le droit aussi à avoir... Donc, si tu dis demain matin, je suis à temps partiel... Je veux m'en aller plein temps, je vais avoir un poste plein temps. Tu vas appliquer tout de suite, puis tu vas avoir droit aux 15 000.
Ceux qui étaient plein temps, puis qui restent plein temps. Tu sais, ceux qui sont là, là depuis le début, est-ce qu'ils ont le droit aussi à l'avoir?
Il me semble que oui, maintenant là. Okay. C'est pas moi qui ai pris la décision. C'est pas moi qui ai pris la décision.
Je te laisse encore une minute parce que le temps file.
OK. Juste pour dire que. Donc, il faut que je règle ça. Ils mettent de l'argent pour pouvoir être capable de le faire. Ça, je trouve que l'idée est pas méchante. OK? Parce que ça permet de faire en sorte que quelqu'un qui est sorti du privé, du public, pour s'en aller au privé, et puis que tu réengages après à trois fois le prix pour pouvoir... Ouais, ouais, mais c'est ça qui se passe, la question. Alors, donc, tu dis, là, je t'ouvre des postes plein temps, j'en roule. Ils sont à 60 % actuellement de la main-d'œuvre qui travaille en temps partiel dans le domaine de la santé. Je veux qu'il y ait 75 % à plein temps. Ça, déjà, ça va permettre de faire en sorte que tu vas avoir moins de recours au temps supplémentaire obligatoire. C'est ce qu'ils disent.
C'est
ce qu'ils pensent être en mesure de pouvoir avoir, parce que là, tu as plus d'heures qui est occasionnée. Or, le phénomène austère, maintenant, des horaires qui sont... oui, je vais faire encore recourir, pour l'instant, à la... à l'embauche de personnel pour pouvoir faire ce temps-là. D'autre part, on me dit que les infirmières nous ont dit que 30 % de leur tâche... Là,
c'est de faire de la paperasse.
C'est de faire la paperasse.
Rédition de compte.
On va embaucher 3 000 personnes
ça,
pour
c'est
faire...
c'est une excellente idée.
OK. Donc, je pense qu'ils ont amené des solutions à la problématique qui est de faire en sorte que tu aies une meilleure horaire de travail.
Merci, M. Simard. Toujours un grand plaisir d'être éclairé par vos lanternes de sagesse. Merci à vous d'avoir été des nôtres. J'espère que ça vous aura été utile pour mieux comprendre ce qui se passe par chez nous. On vous dit bonne semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine.